Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce dimanche 3 juillet. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, et au cours de cette émission, le journal, les sports et le personnage de la semaine, comme chaque dimanche. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Et tout d'abord, les grands titres de ce 3 juillet, les pluies en Nouvelle-Galles du Sud et des menaces d'inondation et d'érosion côtière. Le ministre australien de la Défense déclare que le gouvernement fédéral ferait tout son possible pour essayer de faire livrer les nouveaux sous-marins plutôt que prévu dans le cadre de l'accord AUKUS avec les États-Unis et la Grande-Bretagne, accord conclu par le gouvernement précédent de la coalition. Ash Barty nommé personnalité de l'année au NAIDOC Awards. Les pluies en Nouvelle-Galles du Sud menacent davantage d'inondations et d'érosion côtière. Des zones allant de Newcastle à la côte sud de l'État, un espace qui englobe tout Sydney, et des zones aussi éloignées à l'ouest d'Oberon sont en danger. Des inondations majeures sont possibles le long des rivières Hawkesbury et Nepean dans l'ouest de Sydney et de la rivière Colo dans les prochains jours. Près de 300 mm de pluie sont tombés en 24 heures et le service d'urgence de l'État a effectué 29 sauvetages. Des ordres d'évacuation sont en vigueur dans certaines parties du sud-ouest de Sydney. Le ministre des services d'urgence de la Nouvelle-Galles du Sud, Steph Cook, a déclaré que chacun doit être à la fois conscient et préparé à sa propre situation.
We are now facing dangers on multiple fronts. Flash flooding, riverine flooding and coastal erosion. So if you live anywhere between Newcastle and Batemans Bay, please don't be caught unaware by the current weather situation. This is a life-threatening emergency situation. If you know your local community is prone to flooding, then please be prepared to evacuate and at short notice.
Le ministre de la Défense, Richard Marles, a déclaré que le gouvernement fédéral ferait tout son possible pour essayer de faire livrer les nouveaux sous-marins plutôt que prévu dans le cadre de l'accord AUKUS avec les États-Unis et le Royaume-Uni conclu par le gouvernement fédéral précédent. L'Australie devrait recevoir de nouveaux sous-marins à propulsion nucléaire dans les années 2040. Alors que le parti travailliste soutient AUKUS, Richard Marles a déclaré sur Sky News que l'accord d'achat des sous-marins conclu par le gouvernement précédent a laissé à l'Australie un déficit de capacité de défense qui devra être résolu, et cela pourrait être partiellement résolu en obtenant les sous-marins plutôt que prévu.
Well, I'll be doing everything we can to try and get an earlier result, and the point I've made is that whenever we can get those submarines in whatever year that is, whatever potential capability gap that opens up, we will seek to have a solution for that, and I'm keen that we deal with all of that at once, because that's really the way in which we solve the mess that the country's been left in by virtue of the former government.
L'ancienne joueuse de tennis et numéro 1 mondial, Ash Barty, a été nommée personnalité de l'année au NAIDOC Awards. Cela survient après une période de 12 mois au cours de laquelle elle a remporté à la fois Wimbledon et l'Open d'Australie, puis s'est retirée du sport à l'âge de 26 ans seulement. Elle est actuellement aux États-Unis. Son père, Robert Barty, a accepté le prix en son nom, expliquant au public à quel point l'héritage autochtone de sa fille a été important pour elle au cours de la dernière année, en particulier le soutien de sa collègue, la légende du tennis Yvonne Goolagong-Cawley. Dans un discours préenregistré, Ash Barty du peuple Garigaud de la Nouvelle-Galles du Sud dit qu'elle veut continuer à contribuer à sa communauté.
It's an incredible night to celebrate our culture and the community and so many contributions from so many people. I'm so humbled and privileged to have won the NAIDOC Person of the Year. I can't wait to continue my contribution to kids' education and to help them fulfill their dreams.
Les manifestations défendant le droit à l'avortement en Australie hier. Léo Roussel pour Radio France Internationale était dans les rues de Sydney.
C'est sous une pluie diluvienne que plusieurs milliers de personnes ont parcouru les rues de Sydney ce samedi pour manifester en faveur du droit à l'avortement, un rassemblement en réaction à l'actualité américaine dans un pays où certains États n'ont dépénalisé l'IVG que très récemment. L'avortement est aujourd'hui légal dans tous les États d'Australie, mais il reste souvent cher et parfois difficile d'accès, comme l'explique Michelle, venue braver la pluie et manifester avec des amis.
Notre droit à l'avortement n'est pas aussi parfait qu'on le croit. En Australie occidentale, si vous voulez avorter, il faut demander la permission à deux médecins. C'est ridicule.
En 2018, une étude montrait que 73% des habitants de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, le plus peuplé du pays, étaient favorables à l'avortement. Mais au regard de la situation aux États-Unis, considérer ce droit comme définitivement acquis est inenvisageable pour Hersha Katkol, l'une des organisatrices de la manifestation.
La droite conservatrice australienne s'inspire toujours de ce qu'il se passe aux États-Unis. Donc oui, je suis persuadée que les militants anti-avortement d'Australie vont être motivés par ce qui s'est passé aux États-Unis.
En Australie, un retour en arrière sur la question du droit à l'avortement semble aujourd'hui peu probable, mais la voix du mouvement anti-avortement australien, inspirée et même financée par les lobbies américains, rôde toujours.
Et en France, aussi des manifestations défendant le droit à l'avortement. Reportage Marie Casadebé pour RFI.
C'est un cortège, surtout composé de femmes, qui a pris la direction du parvis des droits de l'homme, juste en face de la tour Eiffel. Beaucoup, comme Stéphanie, brandissaient un objet symbolique qu'elles espèrent appartenir au passé, un cintre en métal.
Le cintre était un outil à l'époque utilisé pour les interruptions de grossesse. Et il faut arrêter de croire que se faire avorter, c'est comme aller à la piscine ou au tennis, quoi. Donc si on a la chance déjà que ce soit médicalement assisté, il faut se battre pour que ça reste comme ça.
C'est pour les mêmes raisons que Noémie et sa fille Émilie, 15 ans, sont venues manifester.
Se dire qu'un pays aussi gros que les États-Unis est capable d'enlever ce droit si fondamental, voilà, ça me fait un peu peur, donc c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui.
Oui, effectivement, et c'est assez troublant, parce que je suis d'une génération où on avait l'impression que c'était un droit qu'on avait acquis de manière perpétuelle, et on se rend compte que non.
Ce qui pourrait rassurer un tant soit peu certains manifestants, comme Kim, 24 ans, c'est que le droit à l'avortement soit inscrit dans la Constitution.
Il peut y avoir une arrivée de totalitarisme en France. Notre droit à l'avortement sera quand même protégé.
Deux partis ont proposé un texte qui va dans ce sens, le parti présidentiel et la coalition de gauche, la NUP. Il pourrait ainsi être le premier à recueillir une majorité de voix dans cette nouvelle assemblée si fragmentée.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que les combats se sont intensifiés dans la ville de Kharkiv et affirme que les forces ukrainiennes ont chassé les forces russes de la ville d'Ivanivka dans la région de Kherson. Les forces pro-russes affirment que leur drapeau flotte maintenant sur la ville de Lysychansk, le dernier bastion de la résistance des forces ukrainiennes dans la province de Luhansk, dans l'est du pays. L'armée ukrainienne rejette les affirmations selon lesquelles la ville est encerclé. Selon Volodymyr Zelensky, le peuple ukrainien doit poursuivre ses efforts et pas seulement le volet purement militaire du conflit contre la Russie.
У багатьох тилових містах зараз відчувається розслабленість, але війна не закінчилась, вона є.
There is a sense of relaxation in many rear cities now, but the war is not over. It is there. Unfortunately, its brutality sometimes only grows, and we must not forget about it. So be certain to help the army, help the volunteers, help everyone who is left alone at this time, and constantly use all your contacts abroad, all your information opportunities, even just social networks, to spread the truth about the war and the occupiers' crimes on our land.
Et maintenant, les dernières nouvelles concernant davantage d'aide militaire américaine. Correspondance de Vincent Souriau. pour RFI.
C'est du matériel lourd que les États-Unis promettent à l'Ukraine. 2 batteries de missiles anti-aériens, 4 radars de trajectoire capables de déterminer le point de départ d'un tir adverse et plus de 150 000 obus de 155 mm destinés aux canons ukrainiens. Washington va livrer ces éléments le plus vite possible, mais sans doute pas avant plusieurs semaines, afin de contrer l'offensive russe qui s'appuie de plus en plus sur des projectiles de longue portée. Le président américain Joe Biden l'a répété cette semaine en marge du sommet de l'OTAN. Nous soutiendrons l'Ukraine autant et aussi longtemps qu'il le faudra. À ce jour, l'aide américaine se chiffre à près de 7 milliards de dollars. Et ce nouvel effort vient d'être salué par Volodymyr Zelensky. Je suis, dit-il, particulièrement reconnaissant aux États-Unis pour cette cargaison qui va renforcer nos défenses aériennes de manière significative. Nous avons beaucoup combattu et travaillé dur pour en bénéficier.
Israël affirme avoir abattu 3 drones lancés par le Hezbollah. Il indique que les drones se dirigeaient vers une zone où une plateforme gazière israélienne a été récemment installée en mer Méditerranée. Le Hezbollah a reconnu avoir lancé les drones et dit que son message a été reçu et que la mission a été un succès. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi est en Birmanie ce week-end pour une visite officielle et pour réaffirmer le soutien de Pékin à la militaire. Reportage Stéphane Lagarde, RFI.
Wang Yi est le plus haut responsable chinois envoyé en Birmanie depuis le coup d'État l'an dernier. Face aux sanctions occidentales, Pékin s'est engagé à aider à sauvegarder la souveraineté de ce proche voisin dont la situation a une incidence directe sur les intérêts de la Chine, disait la diplomatie chinoise le mois dernier. On ne sait pas encore si le conseiller d'État rencontrera le chef de la junte. Il est là en tant que ministre des Affaires étrangères pour échanger avec ses homologues cambodgiens, thaïlandais, laotiens, birmans et vietnamiens dans le cadre du forum de Langkang qui réunit les pays du Bas Mékong. Wang Yi se rendra ensuite en Thaïlande, en Malaisie, aux Philippines et en Indonésie. Il faut préparer les sommets de l'APEC et du G20 en novembre. Il faut surtout resserrer les liens avec les pays de la région suite à l'offensive de charme américaine en Indo-Pacifique. Après Wang Yi en Océanie, Wang Yi en Asie centrale, le ministre chinois des Affaires étrangères va tenter de désamorcer la méfiance des pays de l'Asie du Sud-Est vis-à-vis de la Chine.
Des milliers de personnes ont défilé à Londres pour célébrer le 50e anniversaire du défilé de la Gay Pride de la ville. C'est la première fois que la Gay Pride a lieu depuis 2019 en raison de la pandémie de Covid-19. En vedette des vétérans du mouvement pour les droits des homosexuels qui retraçaient une partie de l'itinéraire de la marche originale de 1972. Cette marche a rassemblé un nombre record de personnes. John Clark a assisté au défilé. Il déclare que la marche de cette année montre à quel point la société a changé.
50th anniversary. I mean, my heavens, what a milestone. What a difference in society between then and now. Even just the freedom to do this when previously there would be no audience, it'd just be police. Now look at it. The most popular event in the whole of London. Fabulous.
De retour en Australie, un enfant de 2 ans est hospitalisé en soins intensifs pour la diphtérie. C'est le premier cas de diphtérie de la gorge en Nouvelle-Galles du Sud en presque 100 ans. La diphtérie est une infection contagieuse qui peut rendre difficile la respiration. Il peut faire gonfler le cou et causer des problèmes cardiaques qui peuvent s'avérer mortels chez 5 à 10% des personnes infectées. Les autorités affirment qu'il n'y a pas de risque pour la communauté au sens large, mais exhortent les familles à revoir le statut vaccinal de leur enfant. On passe à la météo pour ce dimanche en Australie. À Perth, il fera 20 degrés. Adélaïde, 14. Melbourne, 13. Hobart, 14. Canberra, 11. Sydney, 16. Brisbane, 21. Cairns, 26. Darwin, 29. Alice Springs, maximale de 15 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche, 3 juillet, les pluies en Nouvelle-Galles du Sud et des menaces d'inondations et d'érosion côtière. Ash Barty nommé personnalité de l'année aux NAIDOC Awards. Fin du journal et merci de rester avec nous.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/ bit.ly/sbsfrench.
Journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord le tennis à Wimbledon, la Polonaise Świątek éliminée par Alizé Cornet, la Française, en deux manches. Après 38 victoires d'affilée pour la Polonaise, comme nous l'explique Sofiane Amazian pour RFI.
37 victoires consécutives depuis février 2022, la plus longue série du 21e siècle chez les femmes. 6 tournois remportés depuis, Indian Wells, Doha ou encore Roland-Garros. Iga Świątek planait sur le circuit féminin. Mais la Polonaise s'est pris les pieds dans le gazon londonien de Wimbledon. La faute à une Française, Alizé Cornet, 37e mondiale. Une victoire pleine d'autorité en deux manches, 6-4-6-2. Et la Niçoise se retrouve pour la deuxième fois en 8e de finale de Wimbledon après 2014. Alizé Cornet s'était déjà mise en évidence en triomphant à l'époque au troisième tour de la légende américaine Serena Williams. La Française confirme sa bonne forme en 2022, déjà quart de finaliste à l'Open d'Australie en janvier dernier. L'ex numéro 11 mondial se verrait bien atteindre pour la première fois de sa carrière ce stade de la compétition à Londres. Pour cela, il faudra battre l'Australienne Ayla Tomljanovic.
Une autre Française, Harmony Tan, a battu Katie Boulter, la Britannique, en deux manches, 6-1, 6-1, et elle file en huitième de finale. Ce dimanche, Caroline Garcia jouera contre la Tchèque Bouzkova. Et Once Jabeur, la Tunisienne, jouera contre la Belge Mertens. Chez les messieurs, à noter que l'Australien Nick Kyrgios a éliminé Tsitsipas, le Grec, en quatre manches. Et ça passe pour l'Espagnol Rafael Nadal contre l'Italien Sonego en trois manches. On passe au cyclisme, le Tour de France. La deuxième étape, c'est au Danemark, de Roskilde à Nyborg, et qui a été remportée par le Néerlandais Jacobsen. Thomas de Saint-Léger pour RFI.
Il y a un peu moins de deux ans, Fabio Jakobsen était sur un lit d'hôpital. Il sortait tout juste du coma de 5 heures d'opération. Et à ce moment-là, il ne pensait sans doute pas remonter sur le vélo. 2 jours plus tôt, dans un sprint houleux sur le Tour de Pologne, son compatriote Dylan Groenewegen l'avait envoyé par-dessus la barrière. Une chute terrible, un bilan encore plus, traumatisme crânien, multiples fractures du visage. Il avait perdu l'ensemble de ses dents, surtout son pronostic vital était engagé ce jour-là. Son coéquipier Florian Sénéchal lui a sans doute sauvé la vie en restant près de lui. Ce même Florian Sénéchal, très heureux bien sûr aujourd'hui. On l'écoute au micro de Martin Guèze.
Ouais, ça fait plaisir, surtout que là je suis tombé, donc ça fait plaisir que le copain il gagne. Il est revenu de loin et je suis content pour lui, vraiment, vraiment content. Il méritait, il travaille dur et j'ai toujours su que c'était l'un des meilleurs sprinteurs au monde et maintenant il le prouve.
Fabio Jakobsen a devancé Wout van Aert, deuxième comme hier, mais le Belge n'a pas tout perdu.
Et oui, au jeu des bonifications, Van Aert ship le maillot jaune à son compatriote Yves Lampaert. C'est la première fois qu'il le porte sur le Tour de France et c'est bien sûr un moment spécial pour celui qui a déjà remporté 6 étapes sur la grande boucle.
Je crois que c'est un maillot très spécial dans le cyclisme et finalement c'est sur mon épaule. D'abord, je veux profiter et je crois que c'est possible de garder pour quelques jours. Je vais vraiment faire mon mieux de défendre le maillot. Je veux faire des bons résultats aussi pour le maillot vert et quand je suis capable de faire ça, je reste aussi prêt au classement général. Donc oui, ça c'est mon but.
Van Aert qui va essayer de garder le maillot jaune jusqu'aux premières étapes de montagne, où là les purs grimpeurs, Pogacar en tête, feront la loi. Tadej Pogacar, tiens, qui est tombé aujourd'hui, pas de perte de temps, pas de gros bobo a priori, nous a dit le vainqueur des deux dernières éditions du Tour de France, mais c'est à surveiller.
Le Belge Wout van Aert prend le maillot jaune après cette deuxième étape et ce dimanche, troisième et dernière étape au Danemark. On passe au foot pour vous dire que l'OM n'a plus de coach. Les précisions d'Antoine Grenier pour RFI.
Crise pourrait-on résumer. L'entraîneur argentin Jorge Sampaoli, je savais que ça vous plairait, a démissionné vendredi à un an de la fin de son contrat et après une saison de Ligue 1 terminée à la deuxième place, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions. Sampaoli n'était plus sur la même longueur d'onde que ses dirigeants, des dirigeants qui vont désormais se mettre à la recherche rapide d'un successeur, a confirmé Pablo Longoria, le président de l'OM.
Naturellement, dans le moment que ça commence à prendre la direction de nous séparer, on a déjà commencé à travailler sur la suite. On a des idées très claires, on a des conversations avec des candidats dans ce moment. Ce sont des conversations que je crois que sont dans un bon point, mais on a un candidat en tête que je crois que ça c'est la piste qu'on va privilégier. L'équipe commence la préparation prochain lundi, c'est ça qu'on a convenu avec tout le monde, spécialement pour donner le temps au nouveau coach d'arriver. Notre objectif, c'est d'ici à la fin de la semaine, d'avoir en place déjà les nouveaux coachs.
Et puis la CAN féminine, c'est parti depuis hier au Maroc. Hugo Moissonnier est sur place pour RFI.
Oui, une belle ambiance au début, en tout cas un stade rempli aux deux tiers. On s'interrogeait sur l'engouement qu'allait susciter cette CAN au féminin au Maroc. Plusieurs dizaines de milliers de Marocains étaient venus encourager leur Lionne de l'Atlas. Une poignée de Burkinabés étaient là également. Des chants, des applaudissements et une sélection marocaine à la hauteur de l'événement. Avant la demi-heure de jeu, la capitaine Rizlan Chebak trouve la faille sur coup franc. Elle profite aussi d'une petite erreur de la portière burkinabé. C'est le premier but du tournoi inscrit par une joueuse qui est la fille d'un champion d'Afrique marocain 1976. Voilà pour l'anecdote et le symbole. C'est aussi le premier but du tournoi, l'unique but de la rencontre en deuxième période devant des tribunes qui se vident au fur et à mesure de la rencontre. Il faut dire qu'il était tard. Il y avait beaucoup d'enfants parmi les spectateurs. Il fallait aller au lit. Les Marocaines n'arrivent pas à se mettre à l'abri. Le Burkina pousse en vain. Succès logique au final des Lions de l'Atlas, le royaume chérifien qui a décidé d'investir massivement depuis quelques années dans le football féminin, lance bien sa fête pour les Burkinabés. La découverte de la CAN, car c'était une première ce soir, est difficile.
Et à quelques jours de l'Euro, on parle toujours de foot, les Bleus ont battu le Vietnam en match de préparation. Antoine Grenier, RFI.
Les Françaises ont écrasé le Vietnam 7-0 en match de préparation. Les coéquipières de Wendy Renard n'ont jamais été mises en danger et ont fait le plein de confiance avant de débuter la compétition. Corinne Diacre, la sélectionneur tricolore, est satisfaite de la prestation de ses joueuses.
On a bien travaillé offensivement. Défensivement, ça a été difficile de se jauger, mais on travaille des choses à l'entraînement. Donc il nous reste encore quelques jours pour peaufiner ces petits réglages. On a eu quelques blessés dernièrement, mais sans gravité. On n'a pas souhaité prendre de risques ce soir et je pense que vu la physionomie du match, ça aurait été difficile de le faire. Maintenant, on va avoir 48 heures de repos en famille, ça va faire du bien, avant de se retrouver pour partir en Angleterre mardi.
Corinne Diacre au micro de nos confrères de W9.
Rugby, des tests match d'été avec la France qui a battu le Japon 42-23. Victoire de la Nouvelle-Zélande contre l'Irlande 42-19. L'Australie s'est imposée contre l'Angleterre 30-28. Et l'Afrique du Sud a battu le Pays de Galles 32-29. Voilà pour le journal des sports de ce dimanche.
Vos conversations. SBS French.
Nous revenons à présent, comme chaque dimanche, sur un événement marquant de l'actualité et une personnalité qui lui est associée. Pour nous en parler aujourd'hui, nous sommes avec Léo Roussel. Bonjour Léo.
Bonjour, bonjour à tous.
Aujourd'hui, vous allez revenir sur une belle histoire qui a ému le monde du sport cette semaine.
Oui, et cette fois encore, je vais vous parler de football, et il faut dire que l'histoire est magnifique et qu'elle mérite d'être racontée. Il y a deux semaines, on a évoqué Andrew Redmayne, gardien héroïque qui a qualifié l'équipe d'Australie pour le mondial de football au Qatar en novembre et décembre prochains. Cette semaine, on va parler d'une joueuse de la sélection américaine, Carson Pickett, qui a fait sensation ce mercredi.
Pourquoi a-t-elle fait le buzz dans l'actualité ?
Eh bien, parce qu'elle a connu, mercredi soir, sa toute première sélection avec l'équipe américaine de football, réputée pour être la meilleure équipe du monde, à l'occasion d'un match amical contre la Colombie. Alors, vous allez me dire rien d'exceptionnel, mais détrompez-vous, si l'histoire a fait autant parler, c'est parce que Carson Pickett a la particularité d'être une joueuse porteuse d'un handicap. Elle est née sans avant-bras gauche, une particularité physique visible, mais qui n'empêche pas la joueuse de 28 ans d'exceller au plus haut niveau du football aux États-Unis.
Et quel a été son parcours avant d'accéder à l'équipe nationale ?
Carson Pickett, elle est née à Spartanburg, en Caroline du Sud, aux États-Unis en 1993, et elle a suivi un cursus plutôt classique de sportif de haut niveau américaine. Elle a grandi en Floride, où elle a fait ses armes dans le football à la St. John's Country Day School, où déjà elle a fait parler d'elle puisqu'elle a remporté le titre de meilleure joueuse lycéenne de l'année de l'État de Floride en 2012. Elle a ensuite intégré l'équipe des Florida State Seminoles, où elle sera titulaire pour 4 saisons, une équipe avec laquelle elle remportera le championnat national universitaire. Elle intègre ensuite le monde professionnel à sa sortie de l'université en rejoignant Seattle pour une saison avant de poser ses bagages en Australie.
Où a-t-on pu la voir jouer en Australie ?
Eh bien, Carson Pickett a fréquemment passé du temps dans le club de Brisbane. Les saisons de football américaine et australienne se succédant dans l'année, elle alternait entre une moitié de l'année en Australie et l'autre aux États-Unis, à Orlando. Et en Australie, on peut dire que Carson Pickett a fait parler d'elle en 35 rencontres. Elle a inscrit 6 buts, pas mal pour une joueuse qui évolue au poste de défenseur. Aujourd'hui, elle est rentrée aux États-Unis, en Caroline du Nord, où ses performances lui ont donc permis d'accéder à la sélection américaine à 28 ans, et ça aussi, c'est un record. La joueuse a connu la sélection nationale dans les catégories de jeunes, en moins de 17 ans et en moins de 23 ans, mais elle découvre l'équipe première à 28 ans, c'est la joueuse la plus âgée à faire ses débuts en sélection américaine.
Et comment ça s'est passé, sa première sélection mercredi dernier ?
Eh bien, elle a vécu une première plutôt heureuse sous le maillot américain puisque son équipe l'a emporté face à la Colombie sur le score de 2-0. Carson Pickett était titulaire au poste d'arrière latéral gauche et elle a joué toute la rencontre. Elle a été félicitée pour ses débuts par le sélectionneur américain Vladko Andonovski et elle a réagi à cette grande première sur Twitter en écrivant simplement « Un rêve devenu réalité ». Une belle histoire, porteuse d'espoir, que la joueuse relaye volontiers sur ses réseaux sociaux. En 2019, lors de son passage sous les couleurs d'Orlando, l'une de ses photos avait déjà fait le buzz sur Instagram. On la voit se taper dans le bras avec un petit garçon à qui il manque lui aussi l'avant-bras gauche. Un high five apprécié au vu du sourire échangé par la joueuse et par le jeune fan d'Orlando qui avait déjà fait sensation sur Internet à l'époque.
Merci Léo de nous avoir présenté cette joueuse américaine et son histoire.
Choisissez sbs.com.au/french comme page d'accueil de votre navigateur Internet. Retrouvez les dernières informations et actualités, participez à nos sondages et contactez-nous. sbs.com.au/french.
h 35 sur les ondes de Radio SBS, vous écoutez le programme en français. Et dans 36 secondes, on passe à la deuxième partie de l'interview sur le déplacement forcé dans le monde de personnes déracinées par la guerre avec la porte-parole Céline Schmidt de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés.
GPS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
L'UNHCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, vient de publier un rapport sur les déplacements forcés à travers le monde en marge de la Journée mondiale des réfugiés célébrée tous les 20 juin. C'est l'occasion pour les Nations Unies de rendre hommage aux personnes forcées de fuir les conflits, la violence, les persécutions, toujours en quête de sécurité. La situation, on le voit, est alarmante. Les chiffres du déplacement forcé dans le monde atteignent un nouveau record. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Céline Schmitt, porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Céline, bonjour.
Bonjour.
On parle des réfugiés ukrainiens souvent qui fuient l'Ukraine, mais n'oublions pas les personnes qui vivaient en Ukraine sans avoir la citoyenneté, comme beaucoup d'Africains par exemple, qui se retrouvent aujourd'hui en étant réfugiés dans un autre pays et qui ont encore moins de droits que les Ukrainiens. Ça se passe comment spécifiquement dans ce cas-là?
On a rappelé que toute personne qui fuit l'Ukraine, peu importe ses origines, sa nationalité, doit pouvoir avoir accès à la sécurité, doit pouvoir avoir accès, traverser une frontière pour avoir accès à la sécurité. C'était quelque chose de vraiment crucial, parce que tous sont impactés par la guerre, ou victimes en fait de la guerre, et tous fuient la guerre. Donc c'était quelque chose de très important. Et l'activation de la directive sur la protection temporaire prévoit que les personnes donc ukrainiennes ou qui étaient résidents permanents en Ukraine peuvent bénéficier de cette protection temporaire en laissant ensuite la possibilité aux différents États de définir si d'autres personnes peuvent aussi avoir la protection temporaire. Nous avons demandé une application large de cette protection temporaire. Mais pour les personnes qui ne pourraient pas avoir cette protection temporaire, ce qui est crucial aussi, c'est qu'elles puissent demander l'asile dans les pays dans lesquels elles se trouvent. Il y a des personnes qui étaient en Ukraine, il y a des étudiants normalement qui ont choisi aussi en fait de rentrer chez eux et où il y a eu un travail qui a été fait avec les consulats de leur pays pour qu'ils rentrent chez eux. Ceux qui ne peuvent pas rentrer chez eux, qui ne bénéficieraient pas de la protection temporaire, doivent pouvoir demander l'asile. C'est un droit et c'est une obligation aussi internationale des États, en fait, de permettre aux personnes de demander l'asile.
Si on prend un petit peu de hauteur par rapport à la guerre en Ukraine et qu'on revient plus largement à la situation des déplacements forcés à travers le monde, vous évoquiez tout à l'heure les enfants. Comment on gère les enfants réfugiés, l'éducation, l'apprentissage, les besoins primaires, essentiels?
La protection des enfants réfugiés fait partie de nos priorités. Parce qu'effectivement, les enfants qui fuient la guerre, qui deviennent réfugiés, ont laissé derrière eux leur pays, leur environnement dans lequel ils se sentaient bien, sont souvent choqués, traumatisés, parce qu'ils ont vu la guerre, ils ont vu des violences, ils ont laissé derrière eux aussi leur école, parfois des membres de leur famille, et donc il est crucial, dès leur arrivée dans un autre pays, de les protéger, donc en mettant en place, par exemple, très rapidement des espaces pour les enfants, dans lesquels ils sont en sécurité, dans lesquels ils peuvent continuer des activités d'enfants, mais aussi très vite permettre leur accès à l'enseignement, à l'éducation, à l'école, l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire, l'enseignement universitaire. Mais c'est un défi. Dans le monde, on sait que le taux de scolarisation des enfants réfugiés est inférieur au taux de scolarisation des enfants de façon générale dans le monde. Il l'est déjà au niveau de l'école primaire. Mais le fossé se creuse pour l'école secondaire, donc ce sont que 34% des enfants réfugiés qui ont l'âge d'aller à l'école secondaire qui vont à l'école secondaire, alors que la moyenne mondiale est de près de 80%. Et puis ensuite, pour l'accès à l'enseignement supérieur, donc c'est-à-dire universitaire, pour l'instant, il n'y a que 5% des jeunes réfugiés dans le monde qui ont accès à cet enseignement, alors que là aussi, dans le monde, c'est près de 30% des jeunes qui ont accès à un enseignement supérieur. L'accès à l'enseignement, il est crucial parce que c'est l'accès à l'éducation qui va permettre de former ces enfants pour devenir des adultes, contribuer à la société dans laquelle ils sont accueillis, mais aussi peut-être un jour au développement de leur pays, s'ils ont la possibilité de rentrer chez eux. Mais l'école, c'est aussi un espace où les enfants sont sécurisés. Donc, au-delà de l'éducation, ça contribue aussi à leur bien-être, pour leur santé mentale, pour leur développement. Donc, c'est crucial. Et donc, pour cela, effectivement, ça doit être une priorité globale, en fait. Et aussi, en lien avec les acteurs de développement, parce que très souvent, les enfants réfugiés arrivent dans des zones dans lesquelles les enfants ont aussi parfois des difficultés à avoir accès à l'enseignement. Près de 80% des réfugiés sont accueillis dans des pays à revenus faibles ou à revenus modérés. Et donc, c'est ce lien aussi entre acteurs humanitaires et acteurs du développement qui est important, parce que en soutenant le secteur de l'éducation dans une zone où arrivent des réfugiés, à la fois, cela permet aux jeunes réfugiés d'aller à l'école, mais ça permet aussi aux enfants des communautés hôtes d'aller à l'école. Donc parfois, il faut construire de nouvelles écoles, il faut former les professeurs, il faut faire en sorte que les professeurs puissent être payés, il faut faire en sorte que les parents aussi aient les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école, parce que parfois, dans des situations où les parents sont confrontés à la pauvreté, ils vont pas avoir les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école. Et donc, c'est toutes ces questions-là qui doivent être prises en compte et qui, encore une fois, sont une composante de ce pacte mondial sur les réfugiés, qui est en fait la mobilisation de tous les acteurs pour répondre à des situations où il y a des déplacements, pour à la fois protéger les réfugiés, mais aussi soutenir les populations qui les accueillent.
Et est-ce que c'est plus difficile pour les réfugiés et EES ? Est-ce que c'est plus difficile pour les femmes ?
Les femmes font face à des défis effectivement encore plus importants sur les routes de l'exil, et puis notamment si elles voyagent seules. On sait que les femmes qui sont seules sur les routes de l'exil sont plus confrontées aux violences sexuelles aussi, à des risques en fait d'abus, voire à des risques de traite. Et donc une attention particulière doit être accordée à la protection des femmes, la protection des jeunes filles, mais aussi au-delà de ça, une attention particulière pour soutenir aussi les femmes réfugiées et les soutenir aussi dans leurs initiatives. Et ça fait partie aussi des domaines d'intervention, enfin d'action du HCR et de plaidoyer du HCR, c'est inclure les femmes réfugiées dans les décisions qui les concernent. Donc de façon générale, inclure les réfugiés dans les décisions qui les concernent, mais avec un accent aussi justement sur la diversité, y compris de genre. Et donc inclure les femmes dans les décisions qui les concernent et soutenir des projets qui sont initiés par des femmes pour contribuer justement à trouver des solutions et pour répondre aux besoins de tous. Il y a un défi additionnel, on n'en a pas parlé encore, mais dans les zones qui accueillent la grande majorité des personnes réfugiées, des personnes déplacées dans le monde, ces personnes sont confrontées à une multitude de défis, des défis qui s'additionnent. Il y a tout d'abord le défi des conflits, des violences, mais à cela s'ajoute très souvent aussi le défi des effets du changement climatique. Des personnes qui sont déjà touchées par les conflits vont encore avoir à faire face aux effets et des défis additionnels du changement climatique, mais aussi par exemple des effets de la pandémie de Covid, actuellement aussi à un risque d'insécurité alimentaire avec des prix qui augmentent aussi. Et donc, dans ces situations, par exemple, on peut mentionner le Sahel, où les températures augmentent une fois et demie plus vite que la moyenne mondiale, les personnes dans le Sahel et au Burkina Faso, où je me suis rendue en fin d'année dernière, font face à une multitude de risques. De la violence, des attaques de leur village, et ensuite les effets du changement climatique, et puis les effets du changement climatique qui peuvent aussi avoir un effet d'attiser des tensions ou des conflits. Dans ces zones, il y a parfois encore un effet beaucoup plus importants et des risques plus importants pour les femmes qui peuvent avoir parfois la tâche de subvenir aux besoins de leur famille, c'est-à-dire de cultiver, d'aller chercher de l'eau. Et donc, dans des zones où aller chercher de l'eau est encore beaucoup plus compliqué, non seulement du fait des conflits, de possibles violences, mais aussi des effets du changement climatique, et donc cultiver devient un énorme défi du fait de désertification. Il faut prendre en compte ces risques particuliers auxquels font face les femmes et y faire face en justement incluant les femmes dans les décisions qui les concernent, mais aussi en leur donnant les moyens de mettre en place des projets pour justement faire face à ces situations. Parce que les femmes, on le voit quand on donne aux jeunes femmes, aux femmes réfugiées, les possibilités d'innover, peuvent mettre en place des projets qui sont formidables et qui peuvent contribuer au développement de toute la communauté. Et donc, effectivement, il y a ce besoin particulier de prendre en compte.
Céline Schmitt, je le rappelle, vous êtes la porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview.
Merci beaucoup.
Vous écoutez Le Français sur Radio SPS.
Et enfin, d'émission, un rappel des grands titres de ce dimanche 3 juillet. Les pluies en Nouvelle-Galles du Sud et les menaces d'inondation et d'érosion côtière. Le ministre australien de la Défense déclare que le gouvernement fédéral ferait tout son possible pour essayer de faire livrer les nouveaux sous-marins plutôt que prévu dans le cadre de l'accord AUKUS avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. Ash Barty nommé personnalité de l'année aux NAIDOC Awards. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous, c'est mardi à partir de 13h sur les ondes de SBS French. On vous laisse en compagnie de Danny Terreur. C'est pas si facile. Belle journée, à bientôt.
J'ai fait semblant d'indifférent, j'ai déguisé mes émotions en coup de rage. Ma colère colle comme du napalm, je ne tolère plus, ma tête touche le fond. Le cœur de l'explosion au bord de la raison. C'est pas si facile d'être un mec fragile. C'est pas si facile.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.